Vous êtes sur RTL. Avec Pascal Pro.
Les 2010 qui seraient harcelés, eh bien nous sommes avec Nicolas qui est directeur d'une école primaire. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Les 2010, ils entrent en 6e, nous sommes d'accord, ils ne sont plus
ils
chez nous.
Ils viennent d'entrer en 6e, oui. Bon. Ils viennent de partir de chez nous.
Donc il y a un travail un peu pédagogique auprès de CM2 que vous avez eu l'an passé, leur dire faites attention.
Exactement. Une pédagogie et puis les rassurer pour l'entrée en 6e.
Et ben on va en parler après le rappel des titres, Amandine.
Et justement, c'est une info RTL. Jean-Michel Blanquer annonce avoir écrit à tous les principaux, les chefs d'établissement de collège pour les alerter sur ce hashtag anti-2010, ce phénomène de harcèlement qui touche les élèves de 6e depuis la rentrée. Le ministre indique également qu'il va recevoir les réseaux sociaux. Il sera ce soir à 18h15, l'invité de Julien Cellier sur RTL. Dans l'actualité également, le Covid et la rentrée qui n'a pour l'instant pas eu d'effet. Moins de 3300 classes sont fermées, ça représente 0,63% des classes. Reprise de l'audience au procès des attentats du 13 novembre, une partie de la bande-son du Bataclan doit être diffusée cet après-midi. Une nouvelle épreuve douloureuse pour les victimes et leurs familles. Marie était là-bas ce soir-là, elle est restée dans la fosse jusqu'au bout, mais tenait à assister à l'audience.
Ma présence aujourd'hui, c'est un défi thérapeutique pour me réapproprier le récit. On n'est jamais prêt, c'est très particulier. Vraiment, c'est un défi, c'est un essai. Je m'autorise tout à fait à partir au bout d'une demi-heure. Si je ne suis pas OK, j'ai préparé ça avec mon thérapeute. C'est quelque chose qui ne se répétera pas. Je n'aurai pas deux fois la chance de venir écouter ce qui s'est passé. Je n'aurai pas deux fois la chance de faire face aux accusés. Enfin, la chance, peut-être le mot est mal choisi, mais l'opportunité, l'occasion. Les documents, images et audio, sont pas forcément ce que je viens chercher aujourd'hui. Sur les images, je les ai en tête tous les soirs quand je m'endors. Elles sont déjà très présentes. Ces images, elles servent à la cour, mais elles ne servent pas à moi.
Un témoignage recueilli pour RTL par Anne Le Hénaff. Petit coup d'œil à notre météo du jour avec vous, Claire Delorme. On en profite cet après-midi, si j'ai bien compris, parce qu'après ça se gâte.
Exactement, ça va se corser à partir donc de ce soir et surtout ce week-end. On y reviendra. En attendant, profitons du soleil sur toute la façade est du pays et même en région Occitanie et même Nouvelle-Aquitaine. On aura quand même un petit peu d'instabilité vers les Alpes du Sud ou encore le relief des Pyrénées et de la Corse avec quelques petites averses qui pourraient très localement tourner à l'orage. Partout ailleurs, donc du beau temps, mais quand même, ça va se couvrir à partir donc de la Bretagne vers la Normandie en descendant vers le Poitou-Charentes avec quelques petites averses. Là aussi, un ciel plus nuageux et surtout déjà l'entrée de quelques ondées par la pointe bretonne. Donc pour les températures, elles seront comprises entre 20 et 24 degrés en général. 20 degrés à Brest, 23 degrés à Paris, 24 degrés à Strasbourg. Ça fera plus chaud dans le sud-ouest et même auprès de la Méditerranée avec 25 degrés du côté de Bordeaux et même 28-29 degrés encore attendus près de la Méditerranée, la Provence ou encore le Languedoc-Roussillon.
Et donc après, c'est
Après pour ce week-end, justement, le mauvais temps arrive. Donc forcément, ça ne sera pas forcément les très bonnes conditions pour aller à la chasse. Et donc en fait, cette perturbation, elle va investir toute la façade ouest dans la journée de samedi. Donc ça résiste au niveau de l'est pour le soleil. Et puis à partir de dimanche, ça sera du mauvais temps pour tout le monde.
Vous voyez, ça ne méritait pas qu'on s'y arrête trop longtemps.
Amandine, on vous retrouve à 19h15 ce soir.
Oui, ils refont la France. On décrypte l'actualité avec les correspondants de la presse étrangère.
À tout à l'heure, 13h15.
À tout à l'heure.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
Le ministre de l'Éducation nationale a publié une vidéo ce jeudi en fin de journée sur son compte Twitter en réaction au mouvement anti-2010. Les internautes nés en 2010 sont devenus la cible d'autres jeunes un peu plus âgés. Insultes, dénigrements sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Plusieurs élèves ont peur d'aller au collège. Alors on est avec Nicolas qui est directeur d'une école primaire, donc il n'a pas de 2010 a priori dans son école, mais vous êtes directeur depuis combien de temps d'une école primaire, Nicolas ?
Depuis 18 ans.
Bon, donc ces phénomènes d'harcèlement numérique, par définition, ils sont nouveaux, ils ont moins de 10 ans.
Ah oui, clairement, même pour les collèges, moins de 5 ans, je dirais.
Bon, comment ça se traduit ? Parce que c'est toujours les exemples concrets qu'on a du mal à visualiser, imaginer.
Bah, en fait, ça se traduit de la manière suivante. Nous, les CM2 de l'année dernière, dès le mois de juin, étaient déjà au courant de ce mouvement hashtag 2010.
Ah bon ?
Donc, eh oui, j'ai des élèves l'an dernier qui disaient, voilà, il paraît que les 2010 au collège, on va être embêtés, etc. Donc, on leur a expliqué que voilà, ce genre de comportement est inadmissible et qu'il faudra se tourner vers les adultes qui sont responsables des établissements pour ne rien laisser passer, en fait.
Parce que mais nous, c'est depuis... un harcèlement qui est numérique ou c'est un harcèlement qui est physique ?
Il semblerait que ce soit surtout numérique et que ce soit plutôt verbal dans les cours des collèges pour l'instant. Mmh.
Donc il y a tout un travail, j'imagine, à faire auprès de ces jeunes gens un peu plus âgés, les troisièmes, les quatrièmes, on en parlait tout à l'heure avec Madame Fraisse, mais comment lutter contre cela ?
Ben, je pense qu'il faut pas attendre justement les années collège. Nous, dans notre école, depuis le CP, tous les ans, les élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, on leur explique ce que c'est le harcèlement, parce qu'ils ont parfois tendance à confondre harcèlement et puis bagarre et insultes qui sont parfois épisodiques comme ça. Et petit à petit, on leur dit au fil des années que y a des règles, qu'il y a des lois et que quand on harcèle quelqu'un, c'est grave. On leur explique les conséquences pour le harceler. Et on leur explique aussi les conséquences au niveau de la loi quand un autre parent va porter plainte et on leur met les vrais mots. On tourne pas autour des sujets, c'est-à-dire que on leur explique que voilà, ça a des conséquences qui peuvent être psychologiques, que ça peut blesser, ça peut pousser à des comportements ou des actes graves. Et en fait, parfois les enfants, alors pas trop chez les plus jeunes, mais chez les élèves de 9-10 ans, commencent à se dire « Ah ouais, mais en fait, c'est ça le harcèlement et ça peut être très grave. Mmh. » Et en fait, quand il y a un ou deux soucis qui peuvent se produire dans l'école, eh ben on le traite tout de suite. On dit pas « Bon, bah écoutez, vous ne jouez pas ensemble et puis ça va s'arranger.
» Il faut intervenir tout de suite. Bah, merci Nicolas. Ce qui nous intéresse beaucoup, forcément, c'est des témoignages directs. Alors, on va être avec Sandra, qui est la maman d'un 2010, comme on dit. C'est une expression qui est nouvelle, d'ailleurs. Quand j'étais enfant, on disait pas, lui, c'est un 64 ou un 68.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux, Pascal.
Oui, mais je ne sais pas depuis combien de temps on qualifie ceux qui sont nés dans une certaine année par précisément leur année. Je ne sais pas si ça a 5 ans, 10 ans, de dire c'est un 2010, un 2008, un 2006. Bon, il me semble que c'est assez récent. Et puis on se travaille également avec Steve, puisque Steve, lui, il a 29 ans, mais il a été victime de harcèlement scolaire. Donc c'est intéressant d'écouter ces témoignages directs. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est un phénomène qui inquiète. Un mot d'ordre lancé sur les réseaux sociaux pour harceler les élèves de 6e qui ont 10 ou 11 ans. Le hashtag s'appelle Anti-2010, l'année de leur naissance. Une campagne d'harcèlement qui n'est pas nouvelle selon Nicolas, directeur d'école avec nous il y a quelques instants au 3210.
Nous, les CM2 de l'année dernière, dès le mois de juin, étaient déjà au courant de ce mouvement hashtag 2010. J'ai des élèves l'an dernier qui disaient, voilà, il paraît que les 2010 au collège, on va être embêtés, etc.
Votre enfant a-t-il subi des moqueries ? A-t-il été importuné, menacé ? Professeur, chef d'établissement, étiez-vous au courant de cet appel ? Que peut-on faire face à cette bêtise ? Nous attendons vos avis et vos témoignages au 3210 3210.
Bonjour Sandra.
Bonjour, vous m'entendez ?
Mais je vous entends très bien Sandra. Votre fils est né en 2010.
Alors oui, moi mon fils est né en 2010 et il est rentré au collège en 6e l'année dernière avec un an d'avance. Mmh. Et l'année dernière, dès le mois de septembre, il m'a tout de suite dit « Maman, on n'arrête pas de se moquer de moi, j'en ai marre, on me dit 2010, 2010 ». Moi, quand il m'a dit ça, si vous voulez, j'ai cru que c'était une moquerie comme il peut y avoir. J'ai pas mesuré la chose comme je viens de le comprendre là, aujourd'hui. Donc si vous voulez, je suis en train de découvrir, grâce à votre émission et grâce maintenant aux informations que je vois sur les infos, que c'est un phénomène qui existe déjà depuis l'année dernière. Sauf que moi, mon fils n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, quand il m'en a parlé la première fois, les premières fois, je lui ai tout simplement dit, écoute, oui, tu es né en 2010, c'est pas grave. Je n'ai pas mesuré la chose comme je suis en train de le comprendre maintenant. Et c'est vrai que ça existe depuis l'année dernière déjà.
Non mais ce qui est fou, c'est que c'est uniquement parce qu'ils sont nés en 2010. C'est une rupture de décennie. Mais on n'a pas harcelé les 2009 par exemple, ni les 2011. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Le chiffre 2010, pour une raison particulière, a excité manifestement les harceleurs. Mais comment ça se traduit ? Déjà, il était plus jeune donc votre fils, donc c'était plus difficile pour lui.
Exactement. Et puis c'est surtout que j'en avais jamais entendu parler. Donc moi, ça s'est manifesté, je vous dis, dès la rentrée scolaire de l'année dernière où il est rentré en 6e, tout de suite, il m'a tout de suite dit, dès le mois de septembre...
Mais quel type de moquerie ?
Eh bien, t'es un 2010, tu joues pas avec nous, t'es un 2010...
Donc il était écarté, par exemple, on faisait rien avec lui. Bon,
exactement.
Ça a duré combien de temps ?
Alors ça a duré, je vais dire, un petit mois. Bon,
vous vous êtes intervenu tout de suite ?
Je suis intervenue, si vous voulez, au bout de... allez, 4-5 fois où il me l'a répété jusqu'à un soir où il m'a dit « Maman, je ne retourne plus à l'école, il pleurait. »
Oui, c'est ça.
Et là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un problème. Mais encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais
pas. Mais vous voyez, tout à l'heure, Madame Fraisse disait quelque chose d'important. Quand un enfant rapporte à la maison qu'il est harcelé ou en tout cas qu'il a subi une moquerie, il faut immédiatement lui dire « Je te crois ». Et déclencher, pourquoi pas, une sonnette d'alarme. Bon, aujourd'hui, ça va mieux ?
Alors moi, quand il me l'a dit, évidemment, on l'a tout de suite cru qu'il y avait un problème. Mais si vous voulez, il rentre au collège, 2010, j'ai cru que c'était une moquerie. Mmh. Donc, bien sûr qu'on l'a entendu, mais encore une fois, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, tu es né en 2010.
J'ai bien compris. Mais au bout d'un mois, donc, ça s'est calmé ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu l'état de mon garçon, au bout de 3 semaines, je voyais vraiment que les choses empiraient. J'ai immédiatement contacté l'établissement et la CPE de l'établissement avec un mail en disant que là, vraiment, ça s'apparentait à de l'harcèlement. Et elle a immédiatement, et j'entendais votre auditeur juste avant, le directeur de primaire, elle a immédiatement pris la chose au sérieux et elle a convoqué mon fils pour savoir ce qui se passait avec certains camarades identifiés qui tenait ses propos et qui l'écartait.
Et ça s'est calmé ?
Ça s'est calmé immédiatement. C'est une bonne chose. Parce qu'elle les a tout de suite convoqués.
C'est ce qu'il faut faire, il faut intervenir très vite. Et il a fait une belle scolarité l'année passée ?
Et ça s'est très bien passé. Après, on n'a plus du tout de problème.
Bon. Il est en cinquième ?
Il est en cinquième aujourd'hui et croyez-moi que tout à l'heure, quand il va rentrer de l'école, je vais immédiatement lui en parler et lui dire qu'il a bien fait de me l'avoir dit. Et
bien
qu'effectivement,
sûr.
Je m'excuse parce que je pensais que c'était qu'une simple moquerie. Et si vous voulez, en tant que maman, je suis un petit peu là en train de culpabiliser, en train de me dire, mais mon Dieu, c'est vraiment
du harcèlement. Bah non, vous ne pouviez pas le savoir. Si, en plus, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, s'il n'y est pas lui-même.
Non,
Sandra, il s'appelle comment, votre fils ? On peut donner son prénom ?
Victor-Emmanuel.
Victor-Emmanuel.
Il est au collège du Petit Val à Sucy-en-Brie.
D'accord.
Et je tiens à dire que la direction du collège a immédiatement...
Il n'est pas avec vous là, hein, autrement on l'aurait fait parler.
Alors,
je vois que vous appelez Sandra, et c'est un nom d'origine italienne, et votre fils s'appelle Victor Emmanuel, donc il y a peut-être un rapport.
Alors, on n'est pas du tout italien.
Ah bon,
mais c'est
non.
Parce que voilà, on aime bien ce prénom, mais oui.
Ah bon, parce que Victor Emmanuel, c'est quand même un homme qui a été important dans l'unification de l'Italie. Bon, écoutez, merci Sandra, c'était sympathique. Vous avez combien d'enfants ?
J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille qui s'appelle Gabrielle et qui a 5 ans. Et vraiment, je tenais à apporter ce témoignage.
Ah, mais il est formidable, votre témoignage.
Que ça existe depuis l'année dernière.
C'est pas nouveau.
Sauf que l'année dernière, les 2010, n'étaient pas au collège.
Et donc, Gabrielle, c'est une 2016, comme on dit.
Une 2015.
Ah, une 2015. Ah, ça, c'est formidable. Une 2015.
Je serai vigilante.
Bon, et là, c'est terminé ?
Là, c'est terminé.
Ah, il n'y aura pas de troisième. C'est fini.
Non, c'est terminé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais être très vigilante parce qu'il est en 2010, en cinquième. Donc,
il est doué, sans doute, visiblement. Ça marche bien.
Oui, c'est le meilleur.
Ah bah, c'est le Victor Emmanuel à sa maman.
C'est ça.
Voilà, il est beau. Je suis sûr qu'il est beau d'abord. Je suis sûr qu'il est très intelligent qu'il est très gentil.
Oui, aussi.
Et que tout le monde l'aime.
Exactement.
Et franchement, il est doué même en sport.
Oui, en musique,
Victor Emmanuel, je pense que c'est un des garçons de sa génération les plus doués.
Non, c'est pas le plus sage, le plus gentil, mais en tout cas, il est bien dans sa tête, bien dans ses baskets.
Évidemment.
Et il faut être très, très, très vigilant quant à l'harcèlement.
Exactement. Et puis, manifestement, vous le suivez et de près. Et ça, c'est bien. On a bien compris, Sandra.
C'est faux. Mais il faut que vraiment les établissements et les parents jouent le jeu main dans la main pour justement faire en sorte que ça ne traumatise pas les gamins. Quoi, parce
Merci.
Que ça peut avoir des choses... très grave.
Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Sandra.
Merci à vous.
On va voir Steve, on va voir Michel. C'est formidable d'avoir un témoignage comme celui de Sandra, qui est à la fois instructif, mais il y avait un peu d'émotion également. Et puis, c'était sympa de l'écouter. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Un mot d'ordre lancé sur les réseaux sociaux pour harceler les élèves de 6e qui ont 10 ou 11 ans. Le hashtag s'appelle Anti-2010, l'année de leur naissance. Nora Tirane-Fraisse est la maman de Marion qui s'était suicidée en 2013 à l'âge de 13 ans après avoir été victime de harcèlement à l'école. Écoutez sa réaction à ce mot d'ordre dans RTL Midi.
Ça m'inquiète beaucoup, ça veut dire que chaque fois j'ai l'impression qu'on franchit un cap supplémentaire. Ce ne sont pas que des 2010, ce sont surtout des enfants qui rentrent en 6e. C'est-à-dire des enfants qui ont déjà peur de ce nouveau cap, qui n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux, qui ont un usage méconnu de cela, qui n'ont pas de réseau, qui sont perdus et donc encore cette meute, cette lâcheté vis-à-vis d'un groupe.
Parents, vous sentez-vous impuissant face au harcèlement scolaire, à tout ce qu'il se passe sur Internet? Comment faites-vous à la maison? Parlez-vous avec vos enfants? Que peut-on faire face à cette bêtise? Quel comportement adopter?
Il faut savoir que le parent n'est pas forcément l'interlocuteur privilégié. Donc il faut déterminer avec ses enfants dès le plus jeune âge un adulte de confiance et de référence. Et il faut accepter que malheureusement on ne sera pas forcément cette personne-là à ce moment-là, mais qu'il faut trouver d'autres personnes.
Vos enfants ont-ils été victimes du hashtag anti-2010? Nous attendons vos témoignages au 32-10-3.
Et je rappelle que Jean-Michel Blanquer sera l'invité de Julien Cellier à 18h15. Nous sommes avec Steve, bonjour, qui habite dans les Bouches-du-Rhône. Steve,
bonjour,
vous avez 29
Pascal.
Ans.
C'est ça, tout à fait.
Et vous avez été harcelé?
Oui, tout le long de mon collège et de mon lycée.
Donc, durant 7 ans?
C'est ça.
Pourquoi?
Pour une raison un peu vieille comme le monde. À l'époque, j'avais un peu d'embonpoint. Je suis arrivé au collège dans une nouvelle ville puisqu'on venait de déménager. Et ça a commencé tout de suite. Ça a commencé tout de suite pour cette raison-là. Ça a été d'abord des insultes, des brimades un peu classiques, des remarques constantes, d'abord dans l'enceinte de l'établissement et puis ensuite en dehors, puisque j'habitais à l'époque juste à côté du collège. Et après les cours, les mêmes personnes me suivaient jusqu'à chez moi et ça continuait, c'était incessant.
J'imagine que vos parents sont intervenus?
Alors, j'en ai parlé à ma mère dès le début, et au départ, en fait, je me suis heurté à un mur aussi bien du côté familial que du côté du collège. C'est-à-dire que c'était « Oh, ignore-les, c'est rien, ça va passer », c'était on comprenait pas, c'était personne n'en avait rien à faire, finalement.
C'était il y a 20 ans, un peu moins.
C'est ça, un peu moins.
Entre 15 et 20 ans. Donc vos parents ne sont jamais intervenus?
Ils sont intervenus, mais je dirais très très tardivement et peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire que ils ont peut-être fait une réflexion ou deux. Ils ont essayé.
Ils ne sont pas allés à l'école, par exemple.
Non.
Ils ne sont pas allés ceux qui vous mettaient en difficulté.
Non.
Donc j'imagine que ça a laissé une blessure très grande de l'enfant que vous êtes et de l'adulte que vous êtes devenu par rapport à vos parents.
Oui et non, parce que avec le recul, on en a beaucoup discuté et de l'aveu même de ma mère, elle ne comprenait pas ou tout du moins, elle n'imaginait pas que ça puisse atteindre ce niveau-là. Elle me racontait qu'à son époque à elle, jamais ça n'avait atteint ce niveau-là et que dans son esprit, ça n'était effectivement que des brimades et qu'elle ne concevait pas que ça puisse blesser à ce point-là.
Oui, j'entends bien, mais elle regrette aujourd'hui votre mère ou votre père ?
Oui. Oui, elle regrette, mais... Malheureusement, on ne peut pas refaire le passé.
Bien sûr, et c'est des blessures. Et même quand vous êtes construit le rapport à l'humanité, si j'ose dire, sans employer de grands mots, mais quand vous voyez ces jeunes gens que vous grandissez avec l'image de gens qui vous harcèlent, qui se moquent de vous, qui ne sont pas gentils, qui...
Ça crée une haine, forcément.
Oui,
ça,
puis
ça crée,
ça vous vous dites, si l'humanité c'est ça, c'est pas terrible.
C'est ça, ça crée surtout une haine et une colère latente vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'on devient agressif, on se renferme sur soi-même, on fuit le contact, donc c'est très handicapant. Et surtout que moi, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé en parler à l'établissement, je suis allé en parler au CPE notamment, et une image qui, moi, me restera en tête toute ma vie, c'est un jour où la CPE en question avait finalement décidé de convoquer les parents, puisque elle les avait convoqués à la sortie des cours, avec les enfants en question. Et lorsque j'ai raconté ce qu'il se passait, d'abord, les petits, on y est en bloc, et puis en plus de ça, après avoir raconté ce qui s'était passé, je me suis quand même heurté au CPE et aux parents qui rigolaient de la situation, c'est-à-dire qu'ils en riaient. Véritablement, c'est traumatisant pour quand on est censé être face à des adultes qui sont notre seul rempart et on nous dit de venir en parler et d'un seul coup ils en rigolent et avec les agresseurs, entre guillemets, et avec leurs parents.
C'est là
et
que la société a changé quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ce ne serait plus possible. Parce que ceux qui souffrent ou les victimes sont plus entendus, quelles que soient les victimes d'ailleurs, j'ai envie de dire, dans notre société, qu'elles ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans.
Oui, mais malheureusement, il a fallu des drames pour en arriver là. Et je pense notamment à Nora Fraisse avec sa fille Marion, dont j'ai lu le livre, et c'est vrai que c'est poignant. Mais pourquoi faut-il systématiquement en arriver à de telles extrémités pour qu'on soit entendu?
Oui, mais c'est la société qui a changé. Il n'y a pas d'ailleurs que le harcèlement. Globalement, on écoute davantage. J'ai en tête évidemment la révolution MeToo qui a changé les choses, qui change les mentalités. Ceux qui sont agressés, harcelés, victimes, hein, en un mot, on les écoute aujourd'hui beaucoup plus qu'on ne les écoutait dans jadis.
Oui, parce qu'il y a un effet aussi Internet et réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux font beaucoup de mal, mais ils ont aussi ce côté-là de pouvoir exposer le nombre de victimes et de qu'on puisse réaliser qu'il y a finalement beaucoup de victimes. Et du coup, ça, moi, je me serais senti peut-être moins isolé et je me serais dit, ça va, je ne suis pas seul. J'aurais peut-être constaté que je n'étais pas seul.
Steve, on va conclure après la pause parce que je voudrais savoir comment vous allez aujourd'hui, si les blessures sont toujours là ou si la vie a fait que vous êtes résilient et vous êtes passé à autre chose. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes lettres.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Steve a été harcelé de la 6e jusqu'à la terminale. Il en a parlé à sa mère à l'époque et à ses parents qui n'avaient pas vu combien c'était grave. Il en avait parlé au CPE, à l'éducation nationale, aux représentants dans le collège ou dans le lycée, et ça n'a pas été efficace. Donc il a passé une scolarité quand même, disons-le, où rien ne s'est jamais amélioré. Mais aujourd'hui, vous avez 29 ans, quelles sont les blessures qui restent?
Je dirais qu'il y a une blessure, malgré tout, à vie, vis-à-vis de la scolarité, de tout ça, mais en grandissant, avec le cercle d'amis, avec le cercle social qu'on se crée, on apprend petit à petit à guérir, mais j'ai quand même...
Mais dans le travail, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus... Alors, je ne sais pas si vous avez toujours un peu d'embonpoint ou pas, je ne sais pas si c'est passé.
Alors non, justement, puisque suite à ça, juste après ce harcèlement, ou du moins, entre guillemets, pour tenter d'y mettre fin, la seule solution que j'ai trouvée, ça a été... De perdre du poids, mais de perdre du poids à un point où je suis tombé dans l'extrême inverse.
Ah oui.
Voilà. Donc.
Et aujourd'hui, vous avez un poids de forme, si j'ose dire ?
Oui. Et puis, aujourd'hui, les blessures sont cicatrisées, je dirais, mais ça a été très long.
Bon, restez avec nous, Steve, parce que Pascal est là, il habite en Charente-Maritime, et j'ai l'impression que Pascal, il fait partie de ceux qui nient la réalité de ce qui peut se passer parfois dans les écoles. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous écoutiez Steve, c'est intéressant d'écouter Steve, c'est un témoignage qui peut interpeller.
Très intéressant, non, mais il va forcément interpeller, et moi je ne suis pas contre Steve, bien au contraire, mais je pense que le fait de dire qu'on est bizuté en sixième, qu'on est... Alors déjà, aujourd'hui, moi, j'ai un fils qui vient de rentrer en sixième et il n'a pas accès au cinquième et pas accès aux autres enfants du collège, ce que je trouve bien dommage, parce que je pense aujourd'hui qu'on les surprotège,
Ça veut dire quoi, ne pas avoir accès au cinquième? Je ne comprends pas. Il est dans une cour, c'est un quartier de haute sécurité, votre collège? Ils n'ont pas le droit? Les cours ne se mélangent pas?
Non. Les sixièmes ne sont pas mélangés aux autres cours.
Mais c'est-à-dire que dans la géographie du collège, c'est compliqué quand même? Comment ça se passe?
Eh ben, alors pour tout vous dire, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais que les sixièmes, alors soit c'est décalé dans le temps, ou soit ils ont une autre cour, mais ils n'ont pas accès aux autres élèves.
Oui. Bon, vous dites surprotéger, mais ça veut dire quoi surprotéger? Faut laisser les enfants, faut que ce soit la jungle, mais... selon vous, en sixième et cinquième?
Non. Alors, dire que ça soit la jungle, je ne suis pas sûr, mais que un enfant de sixième ait accès à un enfant de cinquième, c'est tout à fait normal. normal. Moi, j'ai une cinquantaine d'années. Si je n'avais pas connu les filles du quatrième, j'aurais été très déçu et puis j'aurais moins bien appris de la vie. Forcément qu'on a, on a besoin d'expérience, on a besoin des conseils des gens qui sont plus vieux que vous. Et quand on arrive en sixième, si vous êtes qu'entre sixième, c'est un peu bizarre, pour le coup, socialement.
Je suis d'accord, Pascal, mais j'ai du mal à comprendre exactement ce que vous voulez dire, pour tout vous dire. Alors, c'est quoi le fond de votre pensée ? Parce que surprotéger, ça veut dire quoi ? C'est ça qui me...
On est toujours en train de faire des lois. Quand j'entends discuter aujourd'hui qu'il faut que les gens n'aient plus accès à Internet, en fait, c'est que les gamins soient surprotégés pour Internet, pour l'école, pour tout ce que vous voulez. Et puis, excusez-moi, j'en perds un peu le fil là, du coup. Mais le fait, c'est qu'on les surprotège et qu'on leur dit pas, ben, tout simplement, si les parents, qu'est-ce qu'ils font?
Des débrouille-toi, ça. On leur dit pas débrouille-toi. Non, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que vous appelez surprotection,
c'est. Le gouvernement qui va s'occuper de toi. Parce qu'on non, va mettre des lois.
On dit pas ça, mais on essaye de régler les rapports sociaux et d'être plus vigilant par rapport à ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans.
En faisant des lois.
Il n'y a pas de loi là-bas, il y a pas de loi là.
Moi je vous dis, mon fils aujourd'hui n'a plus accès.
Mais c'est pas une loi, c'est parce que c'est un règlement peut-être intérieur, mais je sais même pas si c'est lié. Je sais même pas si c'est lié au fait que on veut les protéger en les mettant pas avec les cinquièmes, les quatrièmes ou les troisièmes. Ça serait intéressant d'ailleurs. Il est dans quelle
hyperprotection.
Mais ça, moi franchement, moi j'aime bien creuser parfois pour tout vous dire les discussions qu'on a. J'aimerais bien appeler le collège dans lequel est votre fils pour savoir quelle est la justification que les sixièmes ne voient pas les cinquièmes. Ça m'intéresse.
C'est un collège privé et moi j'appelle spontanément, donc je vous donnerai pas le collège aujourd'hui.
Mais il y avait eu des soucis avant peut-être, ou il y avait eu...
Non, pas du tout. C'est un choix de vie, c'est un choix...
Je vois pas comment c'est possible, surtout quand t'arrives le matin, tu arrives dans une cour où tous les élèves sont ensemble. Donc il y a que les sixièmes, ils rentrent pas à la même heure par exemple que les cinquièmes.
Dans ce collège, il y a deux cours.
Il y a deux cours ?
Ouais, il y a deux cours, et puis
Oui, mais là, vous me dites pas tout. Si c'est un collège ultra privé où il y a deux cours, effectivement, c'est pas du tout la même chose.
C'est vous qui dites ultra.
S'il y a que deux cours, c'est quand même un tout petit collège. Excusez-moi. Donc il y a 60 élèves dans votre collège ?
Il y a deux cours. Non.
J'avais pas compris.
Merci Pascal, vous avez compris.
Deux cours. La cour d'école. Je croyais que c'était deux cours CURS.
Il y a deux portes d'entrée, excusez-moi.
D'accord. Ah oui. Vous savez, il faut m'expliquer lentement. Moi, je comprends pas tout du premier coup. Merci de ce témoignage. Parce que.
Mais tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, on surprotège dès qu'il
y a. Ah, mais j'ai bien compris que ça, vous trouvez qu'on surprotège. Ça m'a pas échappé.
Non, mais on surprotège. Et puis les gens qui arrivent en sixième, les gamins qui arrivent en sixième.
Mais c'est à la fois vrai ce que vous dites. Parce que. Non, mais c'est à la fois vrai ce que vous dites. Parce que. C'est quoi surprotéger ? Moi, je me souviens, par exemple, quand on avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, on allait, par exemple, à pied au collège, et puis nos parents, ça les inquiétait pas. Et puis, à 14 ans, on avait parfois une mobylette, et on n'avait même pas toujours de casque à l'époque. Les casques sont arrivés plus tard. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une surprotection de la société qui existait pas avant. Mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et forcément, regardez le témoignage de Steve. Il a été harcelé pendant 7 ans. Il en a gardé des blessures au point d'avoir un corps qui a réagi, qui a répondu à ce harcèlement. Il est 13h37, on va continuer ce débat. On va parler de la chasse aussi, parce que là, ça fait un moment qu'on parle des 2010. Vous êtes un quoi, vous, Olivier ?
Eh bien, un 1999.
Cosmos 1999. Bon, et vous êtes un quoi, Damien ?
Un 86.
1900 comme Laurent.
Oui, bah, bien sûr, oui.
Ah bah oui, non,
oui,
ça t'entend. Oui,
quand même.
T'entend, 1900. Laurent, c'est un 86 aussi ?
Tout à fait.
Bon, et bien, tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Généralement, on essaye de faire 2-3 sujets. En une heure et demie. Mais là, c'est un sujet tellement fort, il y a tellement d'appels sur les 2010 qu'on prolonge un peu les témoignages, Laurent.
C'est le sujet qui vous fait réagir au standard et c'est vrai que c'est un phénomène qui inquiète. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'est pas nouveau. Ce mot d'ordre qui a été lancé sur les réseaux sociaux pour harceler les élèves de 6e qui ont 10 ou 11 ans, hashtag qui circule anti-2010, l'année de leur naissance. Nicolas, directeur d'école, a été le premier à intervenir ce midi.
Nous, les CM2 de l'année dernière, dès le mois de juin,
était déjà au courant de ce mouvement hashtag 2010.
Le fils de Sandra est né en 2010. Il est rentré en 6e l'an dernier avec un an d'avance. Aujourd'hui, cette maman prend conscience du phénomène.
L'année dernière, dès le mois de septembre, il m'a tout de suite dit « Maman, on n'arrête pas de se moquer de moi, j'en ai marre, on me dit 2010, 2010 ». Moi, quand il m'a dit ça, si vous voulez, j'ai cru que c'était une moquerie comme il peut y avoir. J'ai pas mesuré la chose comme je viens de le comprendre là, aujourd'hui. Et je suis en train de découvrir, grâce à votre émission, que c'est un phénomène qui existe déjà depuis l'année dernière.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a réagi dans une vidéo hier.
C'est évidemment complètement stupide. C'est contraire à nos valeurs. Rappelez-vous, quand vous étiez sixième vous-même, c'était spécial d'arriver au collège. Et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde.
Le ministre de l'Éducation nationale qui sera tout à l'heure l'invité de RTL Soir avec Julien Cellier.
Vous avez été témoin d'harcèlement dans les classes ?
Même pas, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé.
Moi j'ai été témoin, il y avait un élève qui était un peu harcelé par la classe. Je me souviens, il s'appelait Bray. Et toute la classe disait tout le temps, c'est pas drôle d'ailleurs, il disait t'arrête Bray. Tout le temps. Et il était à la fin, il en avait ras-le-bol. Tout le monde disait t'arrête Bray.
Surtout si ça a duré t'arrête, un long
Bray.
Moment.
Il s'appelait Patrick Bray. Je me souviens, et effectivement, c'est la masse. On était en troisième, je me souviens, et on aurait pu dire arrêtez d'ennuyer Bray. Eh bien non, ce pauvre Bray, toute la classe disait t'arrête Bray. Très étrange. Et je vous dis ça parce que Grégory est harceleur. Et il accepte l'idée de témoigner. Harceleur, évidemment, à l'école, quand il était enfant. Bonjour Grégory.
Bonjour Pascal.
Donc vous acceptez un témoignage. Vous aviez quel âge lorsque vous en preniez à vos petits camarades ?
On va nuancer tout ça après, mais c'était aux alentours le collège, quoi. À partir de la cinquième, on va dire, quand on commence à être un petit peu, à avoir un petit peu de repères dans les collèges, et puis, c'est où on se moque des gens, et puis on voit que ça fait rire les trois quarts, et puis c'est parti. Après, on est dans un engrenage où de toute façon tous les jours c'est comme ça, ou alors du coup on est la victime, et malheureusement, le contraire. Aujourd'hui, j'appelais pour deux choses, c'est que je me suis reconnu dans les gens qui harcelaient, même si ça n'a jamais été trop loin. On parle pas de trucs graves, mais juste le fait de se moquer une fois par semaine, c'était déjà. On n'était jamais tout seul, on était 2, 3, 10, et puis ça prenait de l'ampleur sur certains sujets. Et puis là, maintenant, c'est surtout que j'ai 37 ans et que j'ai deux filles, dont une qui est de 2012. Donc je me dis.
Mais ça dit quoi de l'enfant que vous étiez ? C'est ça qui m'intéresse. Vous étiez plus grand que les autres, plus fort que les autres ?
Non, franchement, en plus, vraiment, j'étais un bon gamin, j'étais pas méchant. Mes parents, ils entendaient très souvent que j'étais quelqu'un de poli, mais j'aimais plaire aux gens, en fait. Et je me suis très vite rendu compte que de se moquer, si ça faisait marrer 10 copains, on avait le sentiment d'être au-dessus ou... Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est bizarre.
Vous l'expliquez très très bien. Donc vous, le harcèlement que vous aviez choisi, c'était d'être vanneur, moqueur.
Vanneur, exactement. Bon, vanneur.
Mais alors
vanneur.
Vous preniez des cibles faciles ou vous preniez des cibles
Exactement. Tout à l'heure, vous avez dit un truc et du coup, j'étais pas d'accord parce que c'est ce que j'avais dans ma tête dès le début. Vous avez dit, c'est quand même pas la jungle, le collège. Et ben là, c'était exactement ça. Un lion, pour prendre une image, un lion qui est dans la jungle, il va pas prendre un buffle qui est en train de courir, ou le plus fort, il va prendre celui qui boite. Eh ben, je m'imaginais comme ça. Je vais pas me battre contre quelqu'un qui va être égal à moi, je vais forcément prendre un plus faible. Et puis du coup, ça devient la victime de tout le monde, et quand on s'en rend compte, c'est trop tard, et ce gars-là, donc, il y en a plusieurs à qui j'ai envoyé des messages pour dire, tu te rappelles, il y a 10 ans, heureusement pour moi, les trois quarts avaient oublié. Mais de leur dire, mais qu'est-ce que j'ai été con.
Mais ils n'avaient pas oublié d'ailleurs, je pense. Ils ont faim d'avoir oublié parce que la blessure, on n'oublie jamais quand on a été humilié.
Non,
ça, c'est
que
quelque chose qu'on n'oublie pas. Quel âge vous avez, Grégory ?
37 ans.
Mais ça montre aussi, lorsqu'on dit la nature est bonne et l'enfant est bon, etc. Je crois qu'il faut nuancer tout ça. Je crois qu'on a besoin d'être éduqué, civilisé, parce que si tu jettes tout le monde dans la même pièce, sans éducation, entre 5 et 10 ans, ça peut être la jungle.
Exactement, ouais. Et du coup, vous savez, quand on arrive en 6e, même les plus grands rebelles, hein, c'était pas mon cas d'ailleurs à ce moment-là, quand on arrive en 6e, on rentre dans un univers, on se sent grand, mais en même temps, on est les plus petits, Et donc, du coup, il faut tout de suite se fondre dans la masse. Alors, où ça passe ? Par des vannes, puis ça fait rire les copains, et puis du coup, tant mieux, parce que tu vas mieux passer dans les groupes, on va plus t'accepter, et puis ça a été mon cas, et je m'en suis toujours très bien sorti. Ou alors, du coup, on est tout timide, tout discret, on a une petite différence, un petit truc. Les enfants, vous savez, pas tous, hein, vraiment pas tous, mais pour ma partie à moi, dans mon secteur à moi, avec mes collègues de l'époque, c'était vraiment la méchanceté, le petit truc, la petite différence de quelqu'un. Ça faisait qu'on se moquait, et puis s'il y en a 10 qui rigolaient, et puis un qui malheureusement étaient, on peut dire, traqués, parce que c'est vraiment le cas, et ben, du coup, on n'avait pas l'impression de faire du mal. J'ai jamais eu l'impression d'être un mauvais gamin, surtout à cette époque-là.
Non, mais il y a une forme de culpabilité que vous avez gardée et qui est d'ailleurs saine, hein, parce que c'est les psychopathes qui n'ont pas de culpabilité, qui ressentent rien. Vous, vous avez ce qu'on appelle un surmoi, comme on dit, et forcément, ce surmoi vous fait dire qu'aujourd'hui, avec le recul, vous dites, voilà, c'était pas très bien ce que j'ai fait, etc. Ouais,
ce qui m'étonne, c'est que j'ai toujours pensé ça, et puis c'est pas le cas, la preuve avec votre thème aujourd'hui. Je me suis dit, le fait d'avoir été ce gamin-là, pas gentil avec les plus faibles, d'avoir de la culpabilité, de regretter, je vais faire les choses différemment avec mes filles. C'est-à-dire que si moi je m'étais plaint d'être harcelé à ma maman, à l'époque, elle m'aurait dit, t'es sérieux Greg, tu sais te défendre, tout ça. T'aurais pas été pris pareil à l'époque. Là, je sais que sur deux filles, alors elles ont deux profils complètement différents, elles sont adorables toutes les deux, mais j'ai une grande qui a 9 ans et qui est suiveuse, elle sera jamais une meneuse, alors que la petite, c'est tout l'inverse. Elle ça sera une meneuse, on n'aura pas besoin d'être beaucoup derrière elle pour lui dire fais attention. Mais Léna, là, du coup, le plus important, c'est de lui dire ne rentre pas dans des groupes, ne t'en prends pas à une personne qui est différente de toi. Ce que j'ai fait malheureusement quand j'étais plus jeune, je m'en sers maintenant pour lui dire ne le fais pas.
Ben c'est bien. La vie, ça sert à ça, ça sert d'être moins, d'être plus doux et plus gentil. Ben merci Grégory.
C'est la maman qui a perdu son fils à 13 ans. Ouais. Étant papa, on ne peut pas considérer ça. Ouais.
Merci Grégory. Je suis frappé de la qualité des témoignages que nous écoutons depuis le début de l'émission. Parce qu'on est sur de l'humain, on est sur de la sensibilité. C'est formidable ce que vous avez dit. Nous allons être avec Olivier. Olivier, je viens de réaliser quelque chose avec cette date de naissance que vous m'avez dite tout à l'heure, puisque vous êtes de 1999.
Je suis né au 20e siècle.
Oui, bien sûr, mais j'en tire la conclusion, si vous êtes né en 1999, que vous n'avez pas participé ni vu la finale de la Coupe du Monde 98.
Eh non, pas du tout. Eh oui, avec beaucoup de regrets.
Ce que vous me dites est terrible. Vous savez qui a marqué le troisième but quand même ou pas ?
Mais bien sûr.
Quand même, vous avez vu des images.
Ah, exactement, des images d'archives, Pascal. De vous également, de l'époque.
Oui, bien sûr.
Et donc c'était qui, Olivier ?
C'était Dugarry.
Non, pas du tout.
Non, Dugarry,
c'était Emmanuel Petit.
Laurent Tessier m'a tendu une fiche avec marqué Dugarry dessus.
Mais il est méchant. Le problème de Laurent Tessier, c'est que lui, quand il était petit déjà, il se moquait dans sa classe de certains élèves et il en a gardé. Lui, il n'a pas fait le chemin de Grégory. Oh, vous voyez, il n'a pas fait le chemin.
J'aurais dû m'en douter, là, pour le
Mais
coup,
bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur Facebook ? Parce que je rappelle que vous êtes l'homme de Facebook.
Exactement. David nous écrit « Ce harcèlement n'est pas né avec les 2010. Ça fait des années que j'interpelle les directeurs d'établissement là-dessus », nous dit David. « Pour Emmanuel, mon fils est né en 2010 et il a bien heureusement échappé à tout ça. Il ne faut surtout pas laisser ce phénomène se banaliser. Fernand lance sur notre page Facebook ce hashtag anti-2010. Ça représente la crétinisation de notre système éducatif moderne. » On finit avec Poussin. Les réseaux sociaux... Avec Poussin. Il s'appelle Poussin.
Ah bon, voilà, je croyais que c'était un Poussin.
Non. Les réseaux sociaux sont la plus grande calamité de ce siècle. Alors peut-être, c'est surtout que je le connais bien, donc c'est possible.
Vous connaissez son prénom ?
Exactement. Bien sûr,
Nicolas.
Pascal. Non mais arrêtez de me tester, Pascal. J'ai tellement de connaissances que
Nicolas Poussin est un peintre merveilleux. J'imagine que vous l'avez vu au musée d'Orsay des dizaines de fois.
Mais tous les week-ends, bien sûr.
Merci, cher Olivier. On parle de la chasse. Un chasseur sachant chasser sans son chien. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Le gouvernement a-t-il raison de défendre les chasseurs ? La chasse est-elle une activité essentielle ou dépassée pour vous ? Le gouvernement veut autoriser à nouveau des chasses traditionnelles d'oiseaux jugées illégales par le Conseil d'État. Écoutez la colère d'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux.
Je suis scandalisé parce qu'il y a un double langage du président de la République qui, à Marseille, nous explique que la France doit être exemplaire en conservation de la biodiversité et qui, dans le même temps, décide de réouvrir les chasses traditionnelles condamnées par la Cour européenne de justice. C'est proprement scandaleux.
De leur côté, les chasseurs manifesteront demain pour défendre un monde rural, je cite, bafoué. En avez-vous marre, tiens, de toutes ces attaques contre ce milieu ? Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération des chasseurs, était l'invité de RTL ce matin avec Yves Calvi.
C'est aussi un espèce de ras-le-bol du chasse-bashing, de l'agri-bashing, du campagnard-bashing. Les ruraux, on les prend pour des ploucs. Je pense que le président de la République, depuis le début, a compris que la chasse, c'était un mode de vie en milieu rural et que c'était respectable à partir du moment où il y avait un encadrement et que c'était contrôlé. On respecte des règles, on n'est pas dans une jungle. De temps en temps, il faut nous foutre la paix.
Le gouvernement a-t-il raison de défendre les chasseurs? 32-10, 3-2-1-0.
Je salue Henri-Jean Servat, que vous connaissez. Bonjour. Ah, Henri-Jean Servat n'est plus là, malheureusement. C'est dommage, parce qu'il écrit...
Mais si, je suis là.
Ah, mais si, il est là, Henri-Jean.
Mais si, je suis là, mais j'ai plaisir à vous saluer, mon cher Pascal.
Henri-Jean, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, mais vous êtes également, depuis juin 2020, élu sur la liste de Christian Estrosi, conseiller municipal de la ville de Nice, où vous avez reçu la délégation des animaux. Et on connaît votre combat pour les animaux. Moi, je voudrais votre point de vue sur la chasse. Idéalement, vous souhaiteriez qu'elle soit interdite en France ?
Je souhaiterais bien sûr qu'elle soit interdite et qu'elle n'existe pas, mais je voudrais probablement n'insulter personne, j'ai pas envie de me faire insulter non plus, mais je comprends pas comment aujourd'hui, je veux dire, on peut prendre des fusils pour aller tuer des animaux. Vous savez, vous connaissez la phrase de Théodore Monod, je veux dire, des chasseurs qui tuent des oiseaux, c'est comme si on voyait des soldats en train de tirer sur des enfants. Quel est l'intérêt aujourd'hui, quelle est l'occupation essentielle de Français qui sortent avec des fusils? Promenez-vous dans la campagne, arpentez la campagne, découvrez la campagne, mais pourquoi aller à 115 000 oiseaux au programme. Il y a des alouettes au programme, des vanneaux UP. Ce sont des espèces qui sont très menacées. Bougrain Dubourg l'a dit avec beaucoup de justesse. Pourquoi ? Alors, je ne comprends pas comment le président de la République, pour lequel j'ai par ailleurs pas d'inimitié particulière, comment il peut être hors sol à ce point et comment il peut être conseillé par Thierry Coste, qui ne connaît strict et qui fait exprès de mentir. Je veux dire, la chasse, Pascal, ce n'est pas la ruralité. Ce n'est pas vrai. La chasse, ce n'est pas la ruralité. C'est une partie
non, mais
de la
ce
ruralité,
qu'on dit souvent, c'est une culture, une habitude. Des mœurs, des coutumes, c'est ça que j'entends depuis toujours, l'art d'être français.
Mais non, mais allez-vous, en quoi l'art de tuer des animaux sans défense, en quoi l'art de tuer des bêtes qui sont en nidification, des bêtes qui sont en migration, on ne peut pas leur foutre la
tête. Non, mais des sangliers, par exemple, il y en a trop de sangliers,
il peut y avoir des systèmes, mais ne pas aller abattre systématiquement. Moi, c'est le concept que je déteste, de se planquer quelque part avec, vous savez, vous les voyez, ils ont des appos, des appareils, ils font le sifflet de l'oiseau pour les attirer, ils mettaient, parce que maintenant c'est interdit, mais on va voir ce que ça va être interdit. Ils mettaient de la colle sur des petites baguettes de bois pour attraper les oiseaux de la glu. Mais quelle lâcheté, c'est pas de la chasse, ça, je veux dire.
Bon, vous allez rester avec nous parce qu'il va avoir le flash de 14h et puis on va vous mettre, pourquoi pas, en conversation avec des chasseurs, Henri-Jean Servat. Ça va être intéressant de vous écouter. Mais c'est l'heure du crime qu'on présente traditionnellement à 13h56. C'est un peu le même sujet, parce que là, c'était l'heure du crime des oiseaux pour nos amis anti-chasseurs.
Et là, Pascal, j'ai quelqu'un qui, tout petit, tuait des oiseaux. Donc,
voilà. Ah, vous pensez qu'il y a un rapport?
Non, il n'y a pas de rapport, parce que le personnage dont je vais vous parler... Vous connaissez le silence des agneaux?
Bien sûr. Bah, oui. Qui ne connaît pas le silence des agneaux?
Je vais vous présenter aujourd'hui dans l'heure du crime.
L'original?
Le vrai Hannibal Lecter.
Non.
Si, bien sûr.
Ah, il y a un Hannibal Lecter?
Ah, il y a un Hannibal Lecter. C'est lui qui a inspiré le personnage. C'est un colosse. 2m06, 130 kilos, tueur, serial killer. Il s'appelle Ed Kemper. Il a fait 10 victimes au total, dont ses grands-parents et sa mère. Vous voyez, donc,
Il est vivant,
il est incarcéré depuis le milieu des années 60. C'est quelqu'un qui a plus de 70 ans. Et Ed Kemper, c'est une histoire extraordinaire parce que c'est un garçon qui a une très grande intelligence. Ce qui n'est pas toujours le cas des serial killers, et qui a inspiré le FBI, qui est venu fréquemment le voir pour avoir la méthodologie, notamment pour faire du profilage.
Et un peu comme dans le film.
C'est un pionnier du profilage, voilà.
Un peu comme dans le film.
Sauf que lui, c'est vrai.
S'il est incarcéré depuis le milieu des années 60, c'est-à-dire qu'il est à quasiment 60 ans de prison.
C'est ça, oui.
Il avait 20 ans.
Il avait 21 ans au moment des faits.
13h57, on va continuer ce débat sur la chasse. On est avec Henri-Jean Servat, qui également, pour Paris Match notamment, a suivi beaucoup de personnalités. Je pense à Jean-Paul Belmondo et à Brigitte Bardot, donc il pourra peut-être nous dire un mot également de Brigitte Bardot. Mais pour le moment, c'est le flash. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
14h. Le flash avec Aurélia Vallarier.
Jean-Michel Blanquer a écrit à tous les chefs d'établissement de collège pour les alerter sur le hashtag anti-2010, ce phénomène de harcèlement qui touche les élèves de 6e depuis la rentrée. Et c'est une info RTL, le ministre indique qu'il va recevoir les dirigeants des réseaux sociaux pour essayer de trouver des solutions collectivement. Information à suivre ce soir sur RTL, Jean-Michel Blanquer sera l'invité de Julien Cellier à 18h15. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte aujourd'hui après la découverte d'un corps entièrement brûlé à Marseille. La victime a été retrouvée au parc Corot cette nuit dans un quartier nord de la ville, un quartier connu pour des affaires de trafic de stupéfiants. Pour l'instant, la victime n'a pas pu être identifiée et les circonstances exactes de la mort restent encore inconnues. La reprise du procès des attentats du 13 novembre avec une partie de la bande-son du Bataclan qui doit être diffusée cet après-midi. Une nouvelle épreuve pour les familles et pour la victime. Beaucoup de parties civiles ont donc décidé de ne pas assister à l'audience aujourd'hui. Le TGV M, plus accessible, plus connecté et plus écologique. Voici les promesses du TGV du futur. Emmanuel Macron est allé le visiter ce matin, gare de Lyon, à l'occasion des 40 ans du train grande vitesse, inauguré en 1981. Et les dizaines de cheminots qui manifestaient dans la gare et sur les voies ont été évacués. Ils protestaient notamment contre la dégradation des transports publics et l'ouverture à la concurrence. Plus 10% de morts sur les routes au mois d'août par rapport à l'année dernière. Ça représente 25% selon la sécurité routière. Une hausse qui s'explique par l'augmentation du trafic cet été, plus 15%. En raison de la crise sanitaire, beaucoup de Français ne sont pas partis à l'étranger et ont donc voyagé à travers le pays. En football, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de supporters du PSG. Le retour de la chanson de Phil Collins à l'entrée des joueurs au Parc des Princes. Après l'avoir substitué par un son du DJ français Snake, le club parisien fait machine arrière. Le titre Who Said I Would de Phil Collins résonnera donc de nouveau dans le stade. Et ce soir, c'est le début de la 6e journée de Ligue 1. À 21h, Strasbourg affrontera Metz. Une rencontre à suivre dès 20h dans RTL Foot. Les courses, elles ont lieu à Vincennes en nocturne ce vendredi. Départ prévu à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 12, le 3, le 9, le 4, le 16 et sa dernière minute, le 13. Départ de la course prévu donc à 20h15. Et on termine sur un petit point météo. Quelques averses attendues cet après-midi, notamment en Bretagne, en Centre-Val de Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Même s'il ne pleut pas partout, le ciel reste bien nuageux sur toute la moitié nord. Seul le bord de la Méditerranée est épargné avec un beau soleil. Côté température, il fait actuellement 22 degrés à Nantes, 19 à Cherbourg, 23 à Gap et à Tours, 20 à Belfort, 25 à Marseille et enfin 26 degrés à Perpignan. 14h03 sur RTL, les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Praud.
Chez Story.com.
Merci Aurélia.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Henri-Jean Servat est avec nous. Henri-Jean Servat, je disais que vous aviez la délégation animaux à la mairie de Nice. C'est-à-dire, par exemple, que si Christian Estrosi était chasseur, vous ne vous seriez pas engagé avec lui.
Tout à fait, mais tout à fait. Non, mais de toute façon, vous savez que on a fait beaucoup de choses en un an à Nice. Nice, c'est la première ville de France dans laquelle il fait bon vivre avec un animal. Il y a un Niçois sur deux qui a un animal. Les animaux sont dans les trams, dans les parcs, dans les bureaux, dans
les bureaux
verts. Ben, on peut amener
dans les bureaux, c'est compliqué. Si tout le monde amène son chien à RTL, ça va pas être simple quand même, Henri.
Ah, mais moi, vous savez, quand je travaillais à Paris Match, on amenait son chien. Tout le monde avait son chien dans les bureaux. Voilà, maintenant, ça a changé.
Tout le monde amenait son chien.
Mais vous savez que c'est un
chenil non plus, l'entreprise. C'est compliqué, franchement. Là, on est une quinzaine ici. Si tout le monde amène son chien, ça va pas être simple.
Eh ben oui, mais ça prouve que si les gens ils travaillent mieux, ils sont contents, ils ont l'animal qu'ils aiment à côté, ça dope le travail, c'est sympathique.
Vous trouvez que c'est mieux si tout le monde amenait son chien dans l'entreprise?
Ah ben moi je trouve que c'est mieux, moi je peux pas vivre sans mes chiens, j'ai des chiens, j'ai des chevaux, j'ai des ânes, je n'amène pas mes chevaux ni mes ânes au travail.
Non.
Mais je veux dire, mais quand je vis avec, quand je pense à eux, je me sens mieux, je travaille mieux et mes patrons sont contents.
Voilà, j'entends bien. Bon déjà, il faut un grand espace pour avoir des chevaux, des ânes, oui. des chiens, tout le monde. Bon, alors je vais vous faire parler avec quelqu'un que vous ne rencontrez sans doute pas souvent, c'est un chasseur et c'est David qui habite dans les Landes. David, bonjour. Henri-Jean dit quelque chose qui est très simple d'ailleurs. Il dit « Je ne comprends pas l'intérêt au XXIe siècle de se balader avec un fusil et de tuer un animal. » Il a raison, c'est la vraie question. Franchement, si vous me faites le coup que vous aimez vous balader dans la nature, que vous aimez les animaux, etc., j'ai envie de vous dire « Faites-le sans fusil. » Bon, à partir du moment où vous avez un fusil et que vous tuez, forcément cette question elle est légitime et je trouve que c'est la bonne question. David.
Oui, bonjour Monsieur Praud, bonjour aux éditeurs et merci pour votre émission. Oui, j'ai écouté attentivement Monsieur Servat. Bon, effectivement, je crois que nous sommes dans deux mondes totalement différents. Je vais vous répondre. Oui, j'aime la chasse. J'aime l'action de chasser. Alors, voilà, ça c'est l'autre problème. Alors je pense que d'abord c'est une question... Attends, oui, non, mais je dis pas le nom. C'est une question, évidemment, qu'on se pose, que je me suis
posée.
On
est ce qu'on fait, hein.
Exactement, c'est une question que je me suis posée quand j'étais jeune, ça fait 34 ans que je chasse. Et à titre personnel, je n'ai aucun problème philosophique à l'idée de chasser et de tuer. C'est ma sensibilité, j'attends qu'on la respecte.
Et quel est votre plaisir?
Le plaisir, c'est quelque chose qui est difficile à exprimer. C'est le plaisir de la chasse. Alors c'est vrai qu'on peut pas, on peut peut-être pas le concevoir quand on ne connaît pas ça, on ne peut peut-être pas le concevoir quand on ne connaît pas ce milieu, quand on ne connaît pas cette pratique. J'aime chasser.
Mais vous pouvez j'aime considérer chasser, que c'est un peu barbare ou pas? Est-ce que vous vous dites vous-même, tiens, je pourrais me balader parce que mon plaisir, votre plaisir serait pas le même si vous faisiez un dimanche matin une battue, si vous voyez les animaux courir, et s'il n'y avait pas de mort à la fin, ça serait différent.
Alors, j'habite en plein milieu de la forêt landaise, je suis en plein milieu de la forêt, je vis au milieu des animaux. Je vais vous faire rire, oui, j'aime les animaux, j'aime les observer, j'aime les regarder, mais j'aime aussi les chasser. Mmh. Et je ne demande pas à quelqu'un comme M. Sarva son avis. Il n'aime pas ça, c'est son droit, j'aime ça.
Non mais on essaye de comprendre, moi j'essaye de comprendre.
Alors, je vous l'explique, M. Pro, le plaisir de la chasse. Le plaisir de partir avec son chien, avec courir après un lapin, courir après des lièvres, le plaisir de chanter des palombes pour les faire descendre sur un sol. Et c'est vrai que l'aboutissement, rarement, parce qu'on tue de moins en moins à la chasse, l'aboutissement c'est le fait de tuer, effectivement, et ça ne me pose aucun problème d'ordre
philosophique. En tout cas, vous êtes très honnête et c'est très intéressant. Henri Jean, peut-être une question pour David ou un commentaire, Henri Jean?
Non, mais la question, la bêtise, c'est la bonne, c'est que pourquoi ce monsieur aime se balader avec son chien? Ben, il peut se balader dans la nature avec son chien. C'est l'acte final de tuer quelqu'un, c'est ça que je trouve qui est répréhensible. On peut foutre la paix à un animal, peut-être ça vous amuse de courir après les lapins, mais le lapin, ça l'amuse pas de se faire bouffer par un chien ou se faire dézinguer de façon généralement un peu traître, je veux dire, un peu, en faisant des bruits. Foutez-leur la paix aux animaux. Je vous jure que d'apprécier la nature, monsieur. Moi, j'habite à la campagne, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. J'habite à la campagne et j'adore arpenter la nature. Les bruits de la nature, c'est magnifique de voir la nature qui s'éveille, qui vit, qui vibre, qui vibrionne, sans qu'il y ait des coups de feu, sans qu'il y ait ramassé les cartouches, sans qu'il plombe dans la nature, sans qu'il y ait les animaux apeurés. C'est encore plus beau comme spectacle que le simple geste de rester sur une détente et d'abattre, de tuer la vie. Il n'y a rien de plus beau qu'un animal, un petit daim, un chevreuil, un lapin. Foutez-lui la paix, je veux dire. Je ne vois pas pourquoi il est nécessaire à votre équilibre d'aller tuer. Vous verrez, vous serez beaucoup mieux. Essayez une fois de faire partir une fois sans chasse, sans chasser. Vous verrez, vous serez beaucoup plus heureux. Vous aurez la conscience le soir beaucoup mieux. Et la
je
ne
sais pas si vous allez convaincre David, mais on va marquer une pause et on revient tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je vais remercier Henri-Jean Servat et saluer son combat pour les animaux. Je ne dis pas contre la chasse, mais pour les animaux, on peut au moins
bien sûr
rejoindre là-dessus.
Bien sûr,
et puis, évidemment, chacun vous connaît, vous êtes écrivain, journaliste, vous avez suivi les stars pour Paris Match, vous l'avez dit. Comment va Brigitte Bardot?
C'est très bien, aussi bien que possible. J'ai vu acheter un Saint-Tropez la semaine dernière. Et évidemment, elle combat contre la chasse. Elle a demandé d'ailleurs qu'il y ait des moratoires au préfet du Var et au préfet des autres régions de chasse pour que les animaux qui ont été brûlés, menacés par l'incendie, qui ont été confrontés à des choses extrêmement bizarres et difficiles, que les chasseurs sursoient et attendent pour aller les tuer. Je veux dire, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et je voudrais saluer Belmondo. Vous savez que M. Estrosi m'a demandé de faire un programme de cinéma avec Belmondo. Tous les films qu'il a tourné à Nice, toutes les séquences qu'il a tournées à Nice, les interviews, tout ce qui a été fait à Nice, et Belmondo était contre la chasse. Mais il y a eu à circuler sur les réseaux sociaux une photo qu'on a récupérée d'un film de La Tuada qui s'appelle La Novice avec Pascal Petit où il a vu qu'il chasse. Mais Belmondo n'a jamais chassé.
Joyeux Spike, ça avait été tourné, je crois, à Nice notamment.
Oui, je l'avais bien.
À l'aéroport de Nice, et puis.
En studio et à la Victoria.
Et le chien, d'ailleurs, c'est un fan, les chiens de Jean-Paul Belmondo, paraît-il, c'est Brigitte Bardot qui régulièrement les récupère.
Alors, on avait offert à Belmondo une petite yorke qui s'appelait Maya, donc qui était avec lui. Au début, il avait refusé, il dit c'est un chien, il avait textuellement, il dit ça c'est des chiens de vieille antiquaire, je veux pas ça. Et la petite chienne avait été tellement gentille, elle le suivait pas dans les rues de Paris, sans laisse. Il vit avec ses... Puis quand cette chienne est décédée, Belmondo a adopté Pascal tous ses chiens à la Fondation Bardot. Et Belmondo est un des rares, avec moi d'ailleurs, à être reçu chez Brigitte à la Garrigue, l'autre propriété que celle de la
Madrac, là, et Belmondo allait régulièrement, quand il louait une maison, moi je l'ai retrouvé Belmondo à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Aucobrune, il emmenait sa maman en vacances, il emmenait ses chiens, il allait saluer et embrasser Brigitte, et régulièrement, depuis la mort de sa petite Maya, il a adopté Belmondo, qui n'était pas chasseur, je le redis, pour lutter contre ce qui traîne sur les réseaux sociaux, il adoptait systématiquement ses chiens chez à la Fondation Bardot, et il y avait un restaurant à Paris qui est face à l'Elysée, que fréquente l'espèce de Jet Set ou l'Intelligentsia ou la Dolce Vita, qui s'appelle chez Laurent. Un jour, on a interdit à Belmondo d'entrer avec son chien, il a arrêté d'aller chez Laurent.
Henri Jean, je sais que je peux vous écouter pendant des heures, mais oui. On a une émission. En revanche, Brigitte Bardot, c'est une, je pense, c'est la dernière star avec Alain Delon du Monde Ancien.
Bien sûr.
Ça serait bien qu'elle vienne un jour parler avec les auditeurs ou en radio. On pourrait, entre 14h et 14h30, échanger avec elle. Ça serait formidable.
Eh ben, elle va le faire. Vous savez que je vais faire une belle exposition Bardot-Delon. Eh ben, je m'arrangerai pour vous les faire venir. Ils viennent vous parler chez vous. Quoi.
Oh, voilà. C'est, au téléphone, c'est toujours plus facile qu'en télévision. Je comprends qu'en télévision, ça peut être parfois plus lourd, j'ai envie de dire. Oui, mais en radio, faire un petit téléphone en radio, c'est facile. Merci Henri Jean. Merci
je
beaucoup.
Je vous souhaite de passer une journée excellente, mon cher Pascal. Et non à la chasse.
Merci Henri Jean. Merci beaucoup.
On va vivre les années.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Alors David, un petit mot de conclusion, mais vous avez pu échanger, David, avec beaucoup d'honnêteté d'ailleurs, hein, le chasseur que vous êtes.
Absolument. Bon, d'abord, j'apprécie beaucoup Brigitte Bardot, l'actrice. Mmh. Bon, là, je dirais que la différence avec M. Serva, c'est que moi, je comprends son point de vue. C'est-à-dire, moi, du 1er mars au 12 septembre, je vis dans la nature, je vis avec les animaux, je fais du vélo, je les regarde, je les observe, je les connais beaucoup plus que beaucoup de monde. Mmh. Mais à partir du 12 septembre, j'aime aller à la chasse. C'est pas le fait de ramener du gibier. En fait, je ramène très très peu de gibier. Par contre, je le mange. C'est le plaisir de chasser.
Non, mais j'ai compris David. Franchement, vous l'avez dit avec beaucoup de clarté. Et beaucoup
de
honnêteté.
Il ne peut pas comprendre. C'est bien dommage. Et moi, je demande un peu de tolérance, en fait. On est différents.
Oui, mais c'est des sujets. La tolérance, il y a des maisons pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment dire? On ne peut pas rapprocher des points de vue aussi diamétralement opposés. C'est-à-dire, quelqu'un qui est anti-chasse, il ne peut pas admettre que vous chassiez.
Je comprends. Mais il y a des écologistes, j'en connais, qui sont Europe Écologie Les Verts, qui sont chasseurs. Moi, j'ai un oncle qui a manifesté contre.
Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce.
Bien sûr, voilà. Donc un peu de respect, de tolérance, apprenons à nous connaître, respectons-nous. Moi, je veux pas tuer tous les animaux, évidemment. Je suis le premier à dire.
Non, mais vous tuez pas des biches ou des daims quand même, ou des cerfs.
Alors, j'en ai jamais tué.
Ouais, voilà, parce que franchement, bon.
J'en ai jamais. C'est
Bambi, quoi. C'est le complexe de Bambi.
J'en ai jamais tué. Je crois que ma fille n'aimerait pas, effectivement.
Voilà. Bon.
Après,
on marque une pause, monsieur Béchiot.
Oui, monsieur Pro.
Vous auriez pu me proposer cette magnifique chanson sur la chasse. Ce matin, un lapin a tué un chasseur.
Vous le faites si bien.
Ça aurait été formidable. Au retour de la pub, on l'écoutera, tiens. À tout de suite.
Pour votre bonheur.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est un 99 et c'est lui qui, cette année, s'occupe de la page Facebook de l'émission. Monsieur Olivier est avec nous pour la fin de la semaine.
Et puis j'espère les autres semaines aussi quand même, Pascal.
Oui,
bien sûr.
Uniquement si vos progrès en peinture du XVIIe siècle sont avérés.
Pas que en peinture.
Je vais pas rester longtemps alors. Manu s'énerve sur notre page Facebook. Le plus exaspérant, c'est de voir le lobby des chasseurs se cacher derrière la ruralité pour se défendre. Marie-Claude ne partage pas cette position. Honte à notre gouvernement, la chasse pour se nourrir, c'est d'un autre temps. Philippe ajoute, la chasse, c'est purement et simplement un plaisir barbare. Et on termine avec Maxime. Macron s'en fiche de la cause animale, il veut les chasseurs de son côté pour 2022.
Merci cher Olivier, vous êtes quasiment en week-end.
Oui, depuis longtemps.
Pourquoi depuis longtemps? Non.
Avec toutes les références manquées, j'estime.
Non, mais là, maintenant, vous allez passer un week-end, peut-être avec quelques programmes, les Journées du patrimoine.
Ah, mais je vais au Louvre, Pascal, ce week-end.
Voilà, c'est le monument que vous préférez à Paris?
Je pense, oui.
Bon, quelle salle vous préférez particulièrement?
Bon, allez, Pascal, je retourne au travail, merci beaucoup.
Merci. Bon.
C'est pour vous, Pascal. Oh, vous me faites bien.
C'était beau. Parmi les gens que j'ai rencontrés dans ce métier, Chantal Goya est une femme formidable. Je l'ai dit vraiment à chaque fois que je l'ai rencontrée, que je l'ai interrogée. Elle est merveilleuse. Et Jean-Jacques Debout, ce sont deux personnes qui sont absolument formidables, d'une gentillesse, d'une poésie tous les deux, et qui sont merveilleux.
Ils crièrent à l'injustice, ils crièrent à la salle.
Ta-ti-ta-ti-ta-ta. Vous savez que je pourrais écouter ça jusqu'au bout. On attend le deuxième coup refrain ou pas?
Si vous voulez,
on l'attend. On le chante tous ensemble. Allez en régie. Mettez le micro en régie. Ce matin, un lapin.
Olivier ne veut pas chanter, Pascal.
Mais oui, parce qu'ils n'ont pas gardé une âme d'enfant. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. On sourit, mais c'est pas drôle de tuer des animaux, peut-être.
Bonjour.
Sans doute même.
Tout d'abord, je veux vous dire que j'écoute très souvent votre émission. Je suis parfois pas d'accord avec vous, mais souvent d'accord avec vous. Et là, je voulais simplement intervenir parce que ce matin, j'ai entendu le conseiller politique de je ne sais quelle association, là, qui disait...
Monsieur Coste.
Oui, qui disait que c'était normal, que la chasse aux oiseaux dans les filets, par la glu, par les boîtes, tout ça, c'était normal, que c'était la tradition. Alors, je voulais simplement vous dire que Monsieur Calvi, d'ailleurs, lui a dit qu'il y avait beaucoup de traditions qui, heureusement, avaient disparu. Et je suis entièrement d'accord avec lui, parce qu'il faut se souvenir qu'à une époque, par exemple, la femme n'avait pas d'âme, qu'on mettait les chats noirs dans des brasiers, etc. Et toutes ces traditions-là sont disparues.
Oui, quoi, c'était pas une tradition que la femme n'ait pas d'âme. C'était une croyance, peut-être.
Oui,
mais
c'était une croyance du Moyen-Âge. Hein.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Voilà. Alors, j'ai été complètement choquée par ces propos. Hein. Je pense que c'est n'importe quoi. Je ne vois pas l'intérêt de tuer des petits oiseaux avec leurs petites pattes qu'on englue. Hein. Dans les filets, il y a plein de variétés d'oiseaux qui sont pris en même temps que ceux qu'on veut chasser. Tout ça, pourquoi? Pour manger des petits oiseaux? Attendez, à notre époque, on peut manger tout ce qu'on veut, on trouve tout ce qu'on veut dans plein d'endroits. Je ne pense que ce n'est absolument pas justifié. Voilà.
Et vous-même, par rapport aux animaux aujourd'hui, vous avez un rapport particulier? Peut-être que vous n'en mangez pas du tout? Vous êtes végétarienne?
Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je pense qu'il faut de l'élevage, qu'il faut nourrir la planète, qu'il faut de l'élevage, etc. Pas du tout. Mais je suis contre cette chasse qui ne rime à rien. Hein, qui ne rime à rien. Hein. Manger des bécasses, on mangeait des trucs comme ça. Franchement, je vois pas la différence entre une bécasse
des
et un poulet, hein, tout ça. Non, je pense que le revirement du président de la République dans ce domaine ne rime absolument à rien.
Il cherche des électeurs.
De la propagande.
Non, et puis il cherche des électeurs. C'est 1 million de chasseurs. C'est un. Vous savez, l'élection présidentielle, elle se jouera peut-être à quelques centaines de milliers de voix, voire à quelques milliers de voix. Donc ce sont des voix en plus. Eh bien, écoutez, vraiment, merci beaucoup, Michel. Vraiment.
Écoutez, monsieur Pro, par contre, je voudrais quand même vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Je suis une auditrice d'RTL depuis très longtemps, depuis tout le temps pratiquement, et je pense qu'il manque quelquefois dans vos programmes, genre Ménie Grégoire, vous voyez, une personne qui a du bon sens.
Mais Caroline Dublanche, le soir, elle écoute les auditeurs et les auditrices?
Oui, non, mais une personne qui fasse une chronique sur le bon sens.
Comme Saint-Granier. Il y avait Saint-Granier dans le temps qui faisait ça sur Radio Luxembourg.
Voilà,
le bon sens de Saint-Granier.
Le bon sens de nous.
Non, mais c'est vrai, il y a Jean-Alphonse Richard qui est là. Qui était, vous êtes à RTL depuis combien de temps, Jean-Alphonse?
20 ans.
Ah bon, vous n'avez pas connu Ménie Grégoire. C'était le bon sens. Philippe Labraud m'a parlé très souvent du bon sens de Saint-Granier. C'était sur Luxembourg dans les années 60. C'était une sorte de bon sens. Bon, merci Michel. On vous fait des bisous. C'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Tessier.
C'est un phénomène qui inquiète et qui vous a fait réagir au standard. Un mot d'ordre a été lancé sur les réseaux sociaux pour harceler les élèves de 6e qui ont 10 ou 11 ans. Le hashtag s'appelle Anti-2010, l'année de leur naissance. Et on se rend compte aujourd'hui que ce harcèlement n'est pas nouveau.
Nous, les CM2 de l'année dernière, dès le mois de juin, étaient déjà au courant de ce mouvement hashtag 2010. J'ai des élèves l'an dernier qui disaient, voilà, il paraît que les 2010 au collège, on va être embêtés, etc.
Le fils de Sandra est né en 2010, il est rentré en 6e l'année dernière avec un an d'avance et aujourd'hui, cette maman se rend compte de ce que son fils a vécu.
L'année dernière, dès le mois de septembre, il m'a tout de suite dit, maman, on n'arrête pas de se moquer de moi, j'en ai marre, on me dit 2010. Moi, quand il m'a dit ça, si vous voulez, j'ai cru que c'était une moquerie comme il peut y avoir. J'ai pas mesuré la chose comme je viens de le comprendre là, aujourd'hui. Et je suis en train de découvrir, grâce à votre émission, que c'est un phénomène qui existe déjà depuis l'année dernière. Tout à l'heure, quand il va rentrer de l'école, je vais immédiatement lui en parler et lui dire qu'il a bien fait de me l'avoir dit. Et
bien
qu'effectivement,
sûr.
Je m'excuse.
Et puis, c'est un rendez-vous que la France entière, que tous les médias nous envient.
La blague du jour d'Olivier Guémec.
Monsieur Boubouk, un jeune homme qui a toute votre admiration, Pascal. Vous en parlez dans les couloirs d'une manière tellement belle. C'est presque émouvant.
Bah, il est beau, il est beau. Je suis sûr qu'il est très, très intelligent. Et franchement, et il est doué même en sport.
Oh, et même Jean-Alphonse Richard, le présentateur de L'Heure du Crime, est en extase.
C'est une vraie richesse qu'on a à RTL.
Ouais, un jeune homme de la génération 1999. Oh, un an après notre premier titre de champion du monde. Un an après notre 3-0 contre le Brésil. Tac, 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 tac. Et forcément, oh, on se rappelle tous des buteurs.
C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane.
Bah, mais qui est le troisième buteur de France-Brésil? Damien, lancez notre jeu préféré.
Qui veut passer pour un con? Avec ce soir, une grande soirée.
Monsieur Boubouk au hasard, l'homme de la culture générale. Christian Olivier, chef du service des sports de RTL, vient de s'installer dans le public.
On va se régaler, je vous l'assure.
Ah ça, j'en suis sûr. Tiens, reposez la fameuse question, Pascal.
Vous savez qui a marqué le troisième but quand même ou pas?
Mais bien sûr.
Quand même, vous avez vu des images.
Ah, exactement, des images d'archives, Pascal. De vous également, de l'époque. Oui, bien sûr.
Et donc c'était qui, Olivier?
C'était Dugarry.
Non, pas du tout.
Non, oh Dugarry, non.
C'était Emmanuel Petit.
Et oui, c'était Emmanuel Petit. Bon, il n'y a qu'une seule chose à rajouter.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... on peut.
Alors comment va se défendre monsieur Boubouk après cette réponse déplorable?
Laurent Tessier m'a tendu une fiche avec marqué Dugarry dessus.
Mais il est méchant. Le problème de Laurent Tessier, c'est que lui, quand il était petit déjà, il se moquait dans sa classe de certains élèves et il en a gardé, lui il n'a pas fait le chemin.
Bon, après cet épisode, Pascal Praud devient complètement fou.
Ce matin, un lapin a tué un chasseur.
Vive Chantal Goya. Allez, le débrief pour aujourd'hui, cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson que n'a pas connue monsieur Boubouk.
Merci Laurent. Alors, il y avait donc notre auditrice Michel qui disait il manque une chronique de bon sens sur RTL. Et effectivement, je lui ai dit, ça fait rire Jean-Alphonse Richard, mais les plus vieux s'en souviennent. Et les plus vieux, la minute de Saint-Granier était une ancienne émission radiophonique quotidienne française de quelques minutes. Elle a été diffusée à partir de 1935 quand même sur Radio Cité. Et puis après, elle est passée à Paris Inter. Et c'était fait par quelqu'un qui s'appelait Saint-Granier.
C'est pas frais quand même. Hein.
Comment?
Pascal, c'est pas frais quand même.
Ah bah, c'est pas frais. Non, c'est pas frais, mais Saint-Granier, c'est la minute de bon sens de Saint-Granier.
Saint-Granier. Bon, l'heure du crime.
Oui, l'heure du crime. Alors là, 30, en plus, très, très intéressant parce que c'est Hannibal Lecter.
Le vrai. On est dans la tête. Vrai. Aujourd'hui, on va dans la tête d'Hannibal Lecter. Le vrai. Il s'appelle Ed Kemper. C'est un colosse. 130 kilos, plus de 2 mètres. Et c'est lui qui a inspiré le silence des agneaux.
Et il est toujours vivant. Il est en prison depuis les années 60.
Depuis le milieu des années 60.
Merci, à lundi.